qui culmine à 8611 mètres et se trouve à la frontière entre la Chine et le Pakistan. Et bien que légèrement moins haut que l'Everest, son aîné, il est incomparablement plus difficile à escalader, aussi bien plus dangereux, puisque statistiquement, on compte un mort pour quatre ascensions réussies. Et chose tout à fait particulière à cette montagne, en descendre, il est presque tout aussi dangereux que d'y monter, puisque 40% d'accidents se produisent à la descente. Le thème de notre message ce matin sera l'obéissance, la soumission en Église. Parler d'obéissance, et pire encore, de soumission, n'est pas très vendeur. Obéir, se soumettre, ce n'est pas la chose la plus recherchée par nos contemporains. Et même, c'est parfois le contraire qui est admiré. La capacité à se révolter, à tenir tête à une autorité, à un système. Et dans certains cas, à juste titre. L'action du pasteur Martin Luther King est, je crois, l'exemple parfait que nous nous plaisons à revendiquer en tant que chrétiens baptistes. Mais en règle générale, obéissance et soumission ne sont pas des mots que nous aimons employer, car empreints tout de même d'une idée d'abaissement, d'humiliation, de domination de l'un sur l'autre, des uns sur les autres. Et ce n'est pas toujours sans hypocrisie que nous le mettons de côté, car pour ne prendre qu'un seul exemple, en tant que parents, nous pouvons très bien ne jamais réclamer l'obéissance de nos enfants, mais tout en entendant bien dans les faits qu'elle soit réelle. Je vais prier pour remettre notre réflexion au Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre ces instants où nous réfléchissons à cette question de l'obéissance à toi, à ta parole, de l'obéissance en Église surtout. Seigneur, guide-nous dans notre réflexion pour ce sujet délicat et fais-nous voir dans ta parole ce que tu veux, tu attends vraiment de nous sur ce plan-là. Amen. Pour notre sujet, j'ai bien précisé l'obéissance, la soumission en Église. En effet, la Bible évoque de nombreuses autres situations, relations, Dieu-individu, parents-enfants, mari-femme, maître-esclave, autorité-citoyen. Mais pour nous ce matin, nous nous limiterons à son versant communautaire. Quelle obéissance est à qui? Quelle soumission est à qui dans l'Église? Et tout d'abord, quel rapport avec notre montagne? Alors, si vous voulez bien, je vais vous proposer de l'observer quelques instants. De l'observer, voilà, quelques instants. Quand on se concentre comme ça sur une image, une peinture, un dessin, un visage, il se dégage des lignes qui délimitent des zones plus ou moins distinctes. Et ce ne sera pas forcément les mêmes lignes pour tout le monde, mais pour ma part, j'en vois par exemple une ici, qui se perd un peu par là, hein, qui commence ici et puis qui se perd un peu par ici. Matérialisée de cette manière-là. Je vois une seconde ligne ici. Donc, je matérialise de cette manière-là. Et si on les prolonge un petit peu dans la direction à partir du point de jonction, on trouverait une ligne affective qui serait à ce niveau-là. Et ainsi, notre montagne se trouve fractionnée, en quelque sorte, entre trois zones. Une zone centrale, hein, dans laquelle on retrouve le sommet, et deux zones latérales, ici,
au cœur desquelles se trouve la zone centrale et qui semble lui servir de point d'appui. Qui semble en tout cas bien calé entre ces deux zones.
Ces lignes, bien sûr, sont fictives et elles suivent des lignes d'arêtes qui servent d'ailleurs en partie à l'escalade de cette montagne. Mais ce ne sont pas des lignes de rupture physique. La montagne est une et entière dans son entité. Mais elle semble ainsi nous présenter vraiment ces trois zones, une zone centrale, culminante, entourée par deux appuis latéraux essentiels. Et bien entendu, le point culminant de cette partie centrale pointe vers le ciel. Et pour revenir à notre sujet, l'obéissance, la soumission à Dieu nous rapproche de lui. Nous disions que les termes obéissance, soumission, ont des relents d'abaissement et d'humiliation. Incontestablement, c'est le cas. Les rares personnes qui sont parvenus au sommet de cette montagne ont toutes commencé par se soumettre à ses lois. Acclimatation à l'altitude, parfois durant de longues semaines, repérage, évaluation des difficultés, observation de la météo, et une chose qui a souvent fait la différence, patience. Patience dans l'attente du moment opportun, puis détermination et persévérance quand ce moment est arrivé. Ne jamais perdre de vue le sommet. Toujours le garder en point de mire. Et quand un nuage le cache, à n'en pas douter, il est toujours là. De même, quand l'ascension a commencé, alors que nous sommes en plein effort, comme par exemple en ce moment, au cœur du parcours Alpha, le sommet semble peut-être plus que jamais éloigné et n'apparaître que par instant, mais il est toujours là. Et ce sont dans ces instants que nous avons besoin de nous soumettre à Dieu dans tout ce que nous savons de lui, son amour, sa fidélité, sa patience, sa bienveillance, sa bonté. Il ne s'agit pas de minimiser le danger, il est présent. Il y a des passages où il faut prendre un risque. Un sérac peut s'écrouler sur vous, vous n'y pouvez rien et tout est fini. Mais au sommet se retrouveront seulement ceux qui auront pris ces risques. Et donc le premier risque, c'est de ne pas se lancer. Les autres risques maîtrisables, nous les avons effleurés. Se lancer sans préparation, ne pas respecter les lois de la montagne, bref, ne pas se soumettre à ses exigences. Demandez à ceux qui sont parvenus au sommet de vous décrire les sentiments qu'ils ont éprouvés en touchant le but. Vous n'entendrez dans leur bouche certainement pas les mots d'humiliation, d'abaissement ou que sais-je de similaire. Au contraire, il parle d'élévation. Élévation du corps, bien sûr, parce que c'est quand même difficile de faire mieux qu'en la matière, mais aussi élévation de l'âme, dans une humilité fusionnelle avec la nature. Ils en arrivent même à remercier la montagne de leur avoir permis d'atteindre son sommet. Alors, bien entendu, je ne veux pas donner dans le panthéisme, hein, qui est vraiment opposé à la Bible, mais prenons l'image pour ce qu'elle est. Nous aurons d'abondante joie lorsque nous verrons enfin Dieu face à face. Nous serons élevés par le simple fait de nous tenir dans sa présence. Nous relèguerons à ce moment-là, à l'arrière-plan, les sacrifices indispensables et oublierons les dangers courus. Assez curieusement, on trouve beaucoup moins de passages qui expriment directement la nécessité pour l'homme de se soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu, que de passages qui nous mettent en garde contre le danger de ne pas le faire. Peut-être peut-on voir là un parallèle avec la parabole des deux chemins. Large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le suivent. Pardon, je me perds dans mes pages. Et nombreux sont ceux qui le suivent et ont par conséquent besoin d'en être avertis. Quant à ceux qui prennent le chemin étroit, ils auront peut-être moins besoin de panneaux directionnels, puisque, par définition, c'est son étroitesse qui garantit sa validité. À peine de temps en temps aperçoivent-ils le sommet, quand il leur fait la grâce de se montrer, mais pour l'essentiel du voyage, Ils en ont fixé l'image dans leur tête et leur action s'en nourrit. Un des passages qui prêche le plus directement l'obéissance à Dieu en Église est une toute petite phrase, le début d'un verset qui se trouve dans l'épître de Jacques. Et donc il s'agit du chapitre 4, du verset 7. Petite phrase, soumettez-vous donc à Dieu. C'est court, direct. Direct comme semble l'être Jacques d'ailleurs. Sur quoi est-ce que je m'appuie pour supposer qu'il évoque là la soumission à Dieu en Église? Eh bien, tout le sens de l'Épître est tourné vers la vie en Église. Et je vais parcourir très rapidement quelques versets qui l'attestent. Chapitre 2, verset 2. « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un agneau magnifique. Il entre dans votre assemblée. » Chapitre 3, verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Chapitre 4, verset 1. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» Chapitre 4, verset 11. « Ne parlez point mal les uns des autres. » Chapitre 5, verset 9. « Ne vous plaignez pas les uns des autres. » Verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Verset 19. « Mes frères, si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. » Toutes des caractéristiques, cette répétition de formules « parmi vous, les uns les autres, mes frères, frères » nous incline à penser à recevoir cet enseignement en Église. Et lorsqu'il s'adresse à des individus ou des catégories d'individus, Jacques les cite nommément. Vous les riches, vous les businessmen, vous, si quelqu'un est malade, si quelqu'un s'est égaré. Alors bien entendu, l'enseignement qui est donné à titre collectif se répercute sur l'individu. Sinon, l'Église serait un corps sans membres, une espèce d'entité unicellulaire un peu molle, que sont les paramécies, par exemple. Une Église obéissante ne peut être constituée que de croyants obéissants. Mais voilà donc ce que dit Jacques à l'Église. Soumettez-vous donc à Dieu. Et il y a ce magnifique verset 10. Humiliez-vous, chapitre 4, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Là-haut. Atteindre des sommets par l'humilité. Remporter des victoires par l'obéissance. N'est-ce pas le modèle que le Christ nous a donné? Quand nous lisons que Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples, n'est-ce pas au moment précis où il s'apprête à subir l'humiliation et l'abaissement? Et si le Christ a quitté sa gloire, la gloire qui était la sienne auprès du Père, n'est-ce pas pour être abaissé, pour s'être abaissé, qu'il est maintenant élevé? Son retour n'en sera-t-il pas que plus glorieux? Comme pour l'obéissance individuelle, on ne compte plus les passages qui mettent en garde les communautés de s'en abstenir. Vous ne devez plus marcher comme les païens, dit Paul aux Éphésiens. Aux Romains, il déclare, et je lis dans la version du Semeur au chapitre 6, que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que maintenant vous êtes vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Mais quoi? Allons-nous encore pécher? Sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste? Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Je vous propose maintenant de quitter la partie centrale de la montagne, l'obéissance à Dieu qui nous fait toucher des sommets, et de nous concentrer sur ces deux zones latérales qui l'encadrent. Quelles sont-elles ? Si vous faites une recherche exhaustive des versets qui parlent de soumission ou d'obéissance, vous tombez inévitablement sur ceux qui parlent de la soumission ou l'obéissance, selon la traduction, aux responsables de l'Église. Et en tant que responsable parmi vous, je tremble en abordant ce point, mais il ne serait pas juste ni doctrinalement fondé de l'esquiver, pour autant en le passant sous silence. Si l'obéissance à Dieu est la colonne centrale et le point culminant de l'obéissance en Église, l'obéissance aux responsables en est un des piliers de soutènement incontournable. Même chose ici, peu de passages prêchent directement l'obéissance aux responsables, mais de nombreux passages nous mettent en garde contre les dangers de ne pas le faire. Passage le plus directement en rapport avec cela, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et cet autre texte qui lui fait écho, qui se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 1 à 5, je vais lire dans la version du Semeur. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle, moi, Pierre, en tant que responsable, comme eux et témoins des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous, de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. L'ordre des choses nous est ici bien rappelé. La soumission dont il est question ici, si elle est un dû, n'en est pas moins volontaire, contrairement à toute forme de soumission contrainte. Et de même, l'autorité dont il est question ici est un service et non un gain. Et Pierre développe ici un enseignement qu'il a reçu dans la bouche de Jésus. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Nous sommes en Matthieu, chapitre 20. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon de beaucoup. Et donc nous avons une recopie sur toutes les strates de l'Église du principe de l'obéissance volontaire, décrite en première partie, de l'autorité bienveillante et elle-même obéissante à l'image du Christ, qui conduit vers une élévation, à une élévation vers Dieu, de toute l'Église dans son unité de corps. Chacun devra rendre des comptes pour sa part, à commencer par ceux qui auront exercé l'autorité. Et les deux écueils sont clairement exposés. Pour le représentant de l'autorité, il est l'abus de pouvoir, d'autant plus odieux et désastreux qu'il s'agit d'un pouvoir spirituel. Pour le second, l'écueil est de dénier et mépriser l'autorité du responsable, puisqu'il est mon frère, il n'est que mon frère en Christ. Ce qui est développé ici, c'est que le gain véritable n'est pas dans le gain individuel, mais dans ce qui gagne toute l'Église, dans ce que gagne toute l'Église, dans l'obéissance à ces règles. Et dans les exemples du Nouveau Testament où ces règles ne sont pas respectées, et je pense en particulier à l'Épître aux Corinthiens, les Corinthiens enfermés dans leur petit jeu de se réclamer qui de Paul, qui d'Apollos, non pas en fait vraiment pour se soumettre à ceux à qui ils se réclament, mais plutôt pour faire la pige à l'autre, c'est la porte ouverte à tous les désordres. Parallèlement, Jean dénonce dans sa troisième épître un certain Diotrephe qui aime bien dominer l'Église et s'arroge un pouvoir arbitraire et sans partage pour définir qui recevoir ou non dans l'Église. Rien ne remplace la soumission volontaire. Rien ne remplace la joyeuse obéissance, pas même une autorité forte. Encore une fois, le véritable modèle, nous le tenons en Jésus, la tête du corps de l'Église, une tête à l'écoute des besoins de chaque membre pour en prendre soin et faire agir le corps tout entier d'une manière coordonnée. Le pasteur, les anciens, les diacres, les responsables d'activité, les responsables de groupe, les responsables de groupe de maison, pour n'être pas la tête de l'Église, n'en sont pas moins ses relais, et responsables devant elle, du bon ordre, devant elle et devant Dieu, du bon ordre qu'on peut espérer y trouver. Ils devront faire de leur obéissance à Dieu une joie dans l'accomplissement de leurs tâches, mais cette joie sera d'autant plus grande si elle se fait avec le concours de l'Église, et ce sera un avantage décisif pour elle. Enfin, abordons le troisième versant de notre thème, l'obéissance en Église, la troisième zone d'obéissance. Et cette troisième zone nous conduit en fait assez logiquement dans les pas de la deuxième, c'est-à-dire une soumission interhumaine, peut-être un petit peu plus difficile à appréhender parce que plus difficile à matérialiser. Et nous en trouvons l'expression dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, et versets 20 et 21. C'est surtout verset 21, mais il ne prend tout son sens qu'à la... Il constitue la fin d'une phrase qui commence au verset 20. « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. » Soumission mutuelle. Soumission les uns aux autres en Église. Pas facile déjà à 50, hein ? Encore moins 100. Et qu'en sera-t-il à 200 ? En fait, nous n'avons aucune chance d'y parvenir à 200 si ce n'est déjà pas un mode acquis, déjà en place, tant que nous sommes 50. Bien entendu, le sujet prend une acuité particulière au seuil d'une décision importante à prendre en Église. Il nous faut alors considérer non seulement notre propre intérêt, mais aussi celui des autres, ce à quoi nous sommes exhortés. Et au-delà des intérêts individuels, discerner l'intérêt collectif général. Renoncer à ses intérêts en Église, peut-être le pas n'est pas si difficile à franchir pour des disciples de Jésus qui ont déjà la tête remplie de toutes les bonnes choses qu'ils recevront après y avoir renoncé durant leur passage sur la terre. Mais je crains que le mot « intérêt » aille au-delà du sens commun et qu'il n'intègre des notions beaucoup plus larges que nos petits intérêts personnels et immédiats. Je pense par exemple aux principes bien établis auxquels nous tenons, ou en tout cas qui sont partie prenante des croyants que nous sommes, la manière dont nous nous sommes construits en tant que croyants. Je pense à notre conception de l'Église, que nous tenons de nos pères, de nos enseignants, de notre cursus personnel, et qu'il nous faut tout à coup reconsidérer dans une situation donnée. Je pense à la multitude de pratiques que nous estimons bonnes pour l'Église, pas pour nous, hein, pour l'Église, et auxquelles il faut renoncer pour un temps ou pour longtemps, ou au contraire en adopter de nouvelles qui ne nous motivent pas plus que ça et y prendre part malgré tout. J'arrête là les exemples, il y en aurait tant, Mais je suis sûr que cela parle au moins à ceux qui ont quelques années d'expérience de pratique communautaire chrétienne. Romains 12, verset 16. « Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Romains 12, verset 5. « De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. » Membres les uns des autres. Si on y réfléchit, c'est une phrase qui va loin. Et en fait, chaque membre emprunte une partie de l'action des autres membres. Si ma bouche est en train de s'exprimer devant vous à cet instant, c'est parce que mes jambes l'ont amené ici. Considérons tout ce que nous devons les uns aux autres. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns et les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et là, je crois encore que la notion d'accueil va bien au-delà de se faire la bise le dimanche matin. Je crois bien entendre là-dedans accueillez les paroles de l'autre, accueillez la vie de l'autre, accueillez la différence de l'autre. L'Église m'a donné de côtoyer des personnes d'une telle différence avec moi que je ne savais même pas que ça pouvait exister. L'Église m'a donné d'entendre des commentaires de la parole de Dieu tels que j'ai craint de devoir réapprendre à lire. Dans ce domaine aussi, l'enseignement par la négative nous aide un grand secours. Galates 5, 15. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Si, comme nous le disions tout à l'heure, nous considérons ce que nous devons les uns aux autres, il y a objectivement fort peu de raisons de nous diviser sur les points que nous sommes appelés à décider ensemble. Ce n'est pas seulement que ce n'est pas bien de se divider, c'est que c'est suicidaire. Galates 5, 26. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Et que dire, encore une fois, de l'Épître aux Corinthiens que je résumerai en un verset, « Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Nous achevons ici l'exploration de notre montagne d'obéissance et de soumission en Église. Zone centrale, culminante, cette colonne qu'est l'obéissance à Dieu. Zone latérale, première zone latérale, ce pilier de l'obéissance, ce pilier qu'est l'obéissance mutuelle, qu'est l'obéissance, la soumission aux responsables. Deuxième zone latérale, ce pilier qu'est l'obéissance mutuelle, la soumission des uns aux autres. Ça forme un tout. Et il serait bien étonnant que nous ne trouvions pas au fond de nous quelques résistances dans l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre de ces zones, peut-être même dans les trois. Que Dieu nous aide à les vaincre. Avant de conclure, je voudrais vous mettre en garde contre le fait de privilégier telle ou telle zone par rapport aux autres. Nous l'avons dit, la colonne centrale est le point culminant, l'obéissance à Dieu. Malheureusement, certains chrétiens ont considéré que là était la seule obéissance à laquelle ils avaient à se soumettre. Soit ils ne fréquentent pas l'Église, soit ils la fréquentent avec une certaine réserve et parfois un regard suspicieux sur les remises en question personnelles nécessaires à leur progrès spirituel, reprochant parfois à l'Église un côté par trop intrusif. Si vous voulez escalader cette montagne sans passer par les zones latérales, j'espère que vous avez les moyens. Parce qu'il va vous falloir un hélicoptère pour vous poser quelque part par là. Et encore pas n'importe quel hélicoptère à cette altitude. Et de toute façon, vous ne pourrez pas vous prévaloir d'avoir accompli l'ascension dans sa totalité. Dans sa sagesse, Dieu a institué l'Église avec des responsables et une communauté de fraternité pour servir d'appui à notre cheminement dans l'obéissance à lui et à sa parole. D'autres ont considéré que les responsables étaient là pour répondre d'eux et qu'ils pouvaient se décharger sur eux de toute décision, qu'ils n'avaient qu'à les suivre docilement en évitant de se poser trop de questions. Je pense que ce n'est pas trop le truc de notre Église, mais je connais des personnes dans ce cas et qui se sont trouvées embringuées sans discernement, avec des diotrèphes dont parle l'apôtre Jean, assoiffés de domination. L'image est parlante. Ce chemin nous conduit quelque part ici, bien loin du sommet. Mais surtout, il nous éloigne de l'autre versant. Et il y aura bien un moment où il faudra prendre ses responsabilités si on veut aller plus loin. D'autres, enfin, recherchent avant tout la sécurité que peut sembler procurer le collectif. Fausse sécurité, partant du principe qu'on risque moins de faire des erreurs à 50 qu'à 10, à 100 qu'à 50, à 200 qu'à 100. Mais l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église sont là pour nous rappeler que les déviances ont été plus marquées quand ils ont atteint un très grand nombre qu'à leur début. Ce n'est pas le nombre qui est condamnable, c'est le fait de perdre de vue la perspective globale. Je me reviens comme ça, ce verset qui, quand tu verras prospérer ton menu bétail, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ne pas perdre de vue la perspective globale, l'objectif final. Les croyants dans ce contexte n'entendaient plus la voix de Dieu, ils ne prêtaient même plus l'oreille. Et aussi, ils s'étaient tellement éloignés dans la direction opposée qu'ils n'entendaient pas les prophètes ici, qui leur criaient de revenir à Dieu, de retourner dans l'obéissance de Dieu, de reprendre l'ascension dans la bonne direction. C'est un peu le syndrome de la limitation de vitesse. Je n'ai pas été très attentif à la signalisation, alors je cale ma vitesse sur celle des autres. Mais si nous sommes tous dans ce cas-là, problème. Au chef des Juifs qui l'accusaient et ne croyaient pas en lui, Jésus répondit: comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire de Dieu, la gloire qui vient... Comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Nous sommes en Jean chapitre 5. L'Église n'est pas engagée dans une recherche de gloire, ni pour elle-même, ni pour ses responsables, mais seulement dans une recherche de la gloire de Dieu. Allons la contempler là où elle se trouve. Au sommet de cette montagne d'obéissance, en utilisant les appuis que Dieu a placés judicieusement aux bons endroits, notre joie ne culminera pas plus haut que notre obéissance. Nous avons chanté ce matin, tellement de joie dans sa présence. Mais si notre obéissance atteint des sommets, alors notre joie aussi atteindra des sommets.